Bonjour, et bien nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi. Raymond et Elisabeth proposent de poursuivre la lecture de l'encyclique du pape François, Loué sois-tu. Et bien nous abordons la fin, c'est-à-dire les solutions proposées par le pape. Alors, non pas qu'il propose des solutions, mais qu'il ouvre des pistes pour sortir de la désespérance et pour trouver un chemin de développement créatif et mieux orienté. Alors, il nous proposait, c'était au numéro 193 que l'on a évoqué la dernière fois, qu'il faut peut-être marquer une pause, des limites raisonnables, une certaine décroissance, donc faire surgir de nouveaux modèles. De nouveaux modèles, qu'en est-il ?
Il nous propose de convertir le modèle de développement global et pour cela de réfléchir sur le sens de l'économie et de ses objectifs pour en corriger les dysfonctionnements, les déséquilibres.
Oui, alors il récuse un certain nombre d'idées où on a l'impression qu'on fait des progrès. Quelles idées, justement ?
Par exemple, le juste milieu. Le juste milieu, ça sert simplement, souvent, à retarder un petit peu l'effondrement.
D'autre part, il évoque les discours sur la qualité de vie, qui ne peut pas être considérée comme un progrès si ce n'est pas la qualité de vie partagée par tous. Il expose aussi le principe de maximalisation du gain. On va faire en sorte qu'avec les mêmes choses, on va pouvoir avoir le gain maximum. Mais le gain maximum, c'est souvent au détriment des ressources futures, au détriment de la santé des personnes qui travaillent, au détriment de l'environnement, puisque maximaliser les gains, on voit bien quand même que là, ce qui compte, c'est l'argent.
Oui. Et le pape dit bien que un comportement pour être considéré comme éthique, c'est un comportement dans lequel les coûts économiques et sociaux qui dérivent de l'usage des ressources naturelles soient établis de façon transparente, soient entièrement supportés par ceux qui en jouissent et non par les autres populations, encore moins les générations futures.
Oui, donc il appelle là plus de responsabilité. Alors là, ça me paraît intéressant ça. Les coûts économiques et sociaux établis de façon transparente. Alors vous avez peut-être pu remarquer combien de chantiers annoncés à X milliards qui coûtent le double, le triple. Bon, alors on ne va pas donner d'exemple ici. Mais autour de soi, chacun en connaît. Et puis, est-ce que ce qui est choisi va être bien pour les autres populations ? Encore plus pour les générations futures. Parce qu'en fait, c'est le marché qui est souvent pris comme une loi. Et là aussi, c'est un critère faux.
Oui.
Donc, critère faux, les justes milieux qui retardent, la maximalisation du gain, ce qui renvoie au marché, c'est-à-dire à des critères économiques sans tenir compte des personnes. Ce qui amène le pape à regarder des solutions vers la politique. La politique et le politique,
et
dans le bon sens.
Dans le bon sens, parce que la politique exige plus de responsabilité pour le bien commun de la part de celui qui détient plus de pouvoir.
Alors, plus de responsabilité pour celui qui détient plus de pouvoir et qui ne se noie pas dans les audits et les rapports qu'il met dans son tiroir, et qu'au lieu d'avoir des audits et des rapports, on peut peut-être demander aux usagers, aux personnes qui vont subir les lois prises ou qui vont emprunter les routes choisies, enfin, être partie prenante, demander l'avis aux usagers. Et ça paraît impressant, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon du pape, le principe de subsidiarité qui exige aussi que l'on donne à tous les informations pour réfléchir correctement. Donc on voit bien que le niveau de responsabilité, c'est à la fois pour choisir le bien commun, mais aussi donner la transparence des informations. Et puis le pape fait remarquer que, dans certains cas, quand on érige le marché en loi, ce n'est pas le politique qui érige le marché en loi, mais, nous dit-il, certains secteurs économiques exercent davantage de pouvoir que les États eux-mêmes. Donc, on voit bien là que si ce sont les entreprises qui décident de ce qu'il faut faire pour soigner l'environnement dans lequel elles sont, elles risquent de ne pas voir ce qu'elles pourraient détruire.
Oui, et donc, il continue en disant la logique qui ne permet pas d'envisager une préoccupation sincère pour l'environnement est la même qui empêche de nourrir le souci d'intégrer les plus fragiles. Parce que dans le modèle actuel, qui est le modèle du succès du droit privé, il semble qu'il n'y a pas de sens à s'investir pour que ceux qui restent en arrière puissent se faire un chemin dans la vie.
Donc en fait, on retrouve là le... ne pas oublier les pauvres, comme oui. il nous disait souvent. Donc ne pas oublier les pauvres et ne pas oublier l'environnement, parce que l'environnement n'a pas les moyens de faire la manifestation dans la rue pour se faire entendre. Donc c'est aussi un milieu faible. Donc une politique qui tienne compte de ce qui est plus fragile, les pauvres et l'environnement. Et il nous propose une politique aux vues larges.
Oui, une politique aux vues larges qui suive une approche globale avec un dialogue interdisciplinaire qui permette d'analyser les différents aspects de la crise.
Alors, il reprend aussi le thème évoqué précédemment. Certains groupes économiques peuvent apparaître comme des bienfaiteurs et s'approprier le pouvoir réel, se sentant autorisés à ne pas respecter certaines normes.
Jusqu'à diverses formes de criminalité organisée, de traite des personnes, de narcotrafic, de violence, qui sont très difficiles à éradiquer.
Alors que l'on songe aux laboratoires qui nous promettent des médicaments miraculeux, non miraculeux, qui même détruisent la santé des personnes. Donc on voit effectivement que lorsque le pape parle d'entreprises qui apparaissent comme bienfaiteurs, n'est-ce pas, quand on fait des médicaments, et qui arrivent jusqu'à des formes de criminalité organisée, eh bien on voit, de fait. Donc il s'agit pour le politique de rompre une logique perverse, nous dit le pape, pour aborder une stratégie de changement réel, c'est-à-dire...
C'est-à-dire une stratégie qui repense globalement les processus à la fois économiques et politiques.
Voilà, la totalité des processus, pas simplement les considérations écologiques superficielles, vous savez, les emballages par exemple, mais qu'est-ce qu'il y a dans les emballages? En fait, une saine politique, donc il nous propose un schéma de conversion, ce que nous allons reprendre après la pause. Nous sommes toujours dans l'émission Les mots de la foi et dans la lecture de l'encyclique Loué sois-tu. C'est sur l'environnement, mais on voit que cela aborde pas simplement l'environnement au sens étroit du terme, mais là, le pape nous propose de regarder ce à quoi aboutit le tandem politique-économique en ce qui concerne la pauvreté et la dégradation de l'environnement, qu'il faudrait réorienter vers le bien commun. En disant, eh bien, souvent, le politique est orienté vers l'obsession du pouvoir et l'économie est orientée vers l'obsession du profit, de la propriété économique. Et il nous dit, regardons, ce que nous avons, ce sont des guerres ou des accords fallacieux et qui entraînent, dans certains cas, donc, la guerre. Là aussi, nous dit-il, l'unité est supérieure au conflit. Et il nous propose, pour retrouver cette unité, de... faire entrer les religions et donc l'éthique dans ce dialogue, et notamment dans le dialogue avec les sciences, puisque souvent on récuse l'apport des religions en disant « c'est pas du tout scientifique ». Qu'en est-il ?
Alors, le pape dit bien « les textes religieux classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques, et ils ont une force de motivation qui ouvre toujours de nouveaux horizons. » est-ce qu'il est raisonnable de les reléguer dans l'obscurité, seulement du fait qu'ils proviennent d'un contexte de croyance religieuse?
Voilà, d'autant plus qu'on sait bien trouver les religions pour obliger les gens à se battre, pour les pousser à se battre, en disant « vous vous battez, si vous mourrez, vous irez au ciel ». Donc là, on voit bien que les politiques, dans certains cas, ne se privent pas d'utiliser le religieux, mais à condition de la servir pour leur projet. Par contre, le pape rappelle, il est naïf de penser que les principes éthiques puissent se présenter de manière purement abstraite, détachée de tout contexte. Et, nous dit-il, le fait qu'ils apparaissent dans un contexte religieux ne les prive pas de toute valeur dans le débat public.
Oui, parce que les principes que notre raison est capable de percevoir réapparaissent de manière différente. Ils sont exprimés dans des langages divers, ces grands principes moraux, y compris dans le langage religieux.
Ce qui implique de fait la responsabilité des croyants. Et là, c'est au numéro 200, le pape s'adresse directement aux croyants, parce que l'encyclique, elle est pour tous les hommes, mais pour les croyants, le pape dit « Il faut les inviter à être cohérents avec leur propre foi et ne pas la contredire par leur action. » Leurs actions, au pluriel même.
Oui. Parce que si une mauvaise compréhension de nos propres principes nous a parfois conduit à justifier le mauvais traitement de la nature, la domination despotique de l'être humain sur la création ou les guerres, l'injustice et la violence, nous les croyants, nous pouvons reconnaître que nous avons été infidèles au trésor de sagesse que nous devions garder.
Donc on peut changer si on en a pris conscience.
On en a pris conscience et il faut prendre conscience aussi que les limites culturelles des différentes époques ont conditionné la conscience. Et
qu'on avait du fait religieux, mais qu'il est toujours à réfléchir à nouveaux frais dans notre univers, donc nécessité de dialoguer avec les sciences. Parce que, nous dit le pape, la majorité des habitants de la planète se déclarent croyantes, et ce dialogue doit être fait avec les sciences, mais toujours en vue de la sauvegarde de la nature, ce qui est le plus fragile, la nature, l'environnement et les pauvres. Et il nous propose donc de dialoguer, donc construction de réseaux de respect et de fraternité, dialoguer entre soi, dialogue entre les cultures et les sciences, parce que, dit-il, la spécialisation a tendance à devenir isolement. Donc il faut affronter convenablement, c'est-à-dire dans ce dialogue des sciences, les problèmes de l'environnement. Avec humour, il rappelle justement le dialogue entre les différents mouvements écologistes. Bref, penser ensemble, dialoguer, avec toujours la sauvegarde du bien commun. Ce qui, nous dit-il, entraîne, et nous abordons le sixième chapitre, une éducation et une spiritualité écologique. Donc, nécessité de changer parce que, nous dit-il, la conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle, d'un avenir partagé par tous est nécessaire. Et donc, il faut développer de nouvelles convictions. C'est un défi culturel, nous dit-il, qui suppose de longs processus de régénération. Donc, miser sur un autre style de vie.
Alors, cet autre style de vie, c'est un style de vie qui ne serait pas dominé par le marché, qui tend à faire de nous uniquement des consommateurs.
Donc là, c'est très intéressant parce que le pape rappelle que nous avons une liberté et que cette liberté n'est pas simplement une liberté pour consommer ou une liberté qui est là pour finalement avoir les objets qui sont proposés par le pouvoir économique et financier. Et il rappelle, nous possédons trop de moyens pour des fins limitées et rachitiques. Donc il faut que les personnes s'ouvre vers autre chose, mais notre temps s'achève et cette autre chose, nous le développerons dans notre prochaine émission. En tout cas, nous en sommes au chapitre 6, éducation et spiritualité écologique. Allez voir. Bonne semaine à tous.